Bonjour à tout le monde. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies, pour chacune de vos vies et pour tous ceux et celles-là qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Bienvenue à ce prayer lunch. Alléluia. Alléluia. Alors, nous continuons sur notre message. Alléluia. Depuis mardi dernier, nous partageons sur un thème. Qui peut me rappeler le thème sur lequel nous partageons? Alléluia. Briser le complexe de pauvreté. Alléluia. Nous avons dit qu'il y a plusieurs types de complexes dans la vie. Et nous avons parlé de complexes d'infériorité, de complexes de supériorité, de complexes de richesse, alléluia, de prospérité. Et depuis mardi dernier, nous parlons plus spécifiquement du complexe de pauvreté, alléluia. Nous avons dit que le complexe, c'est un état d'âme, c'est un état d'être, alléluia. C'est un état d'âme, c'est un état d'être par rapport à une situation, par rapport à une circonstance, alléluia. Et nous avons vu que la dernière fois que le complexe est un sentiment personnel que nous avons de nous-mêmes et qui détermine l'état dans lequel nous progressons. Alléluia. Et en d'autres termes, nous avons dit que nous attirons ce que nous voyons, pensons, disons de nous-mêmes. C'est pourquoi le témoignage de notre vie doit être à l'image du témoignage de Jésus pour nous. Amen. C'est très important. Si tu penses que tu n'es rien, tu ne seras rien. Si tu penses que tu ne vaux rien, tu ne vaudras rien. C'est ton regard sur ta vie qui détermine le regard que les autres ont sur ta vie. Je répète, c'est ton regard sur ta vie qui détermine le regard que les autres ont sur ta vie. Si tu vois ta vie avec de la valeur, si tu donnes à ta vie une certaine valeur, les gens le respecteront. Amen. Les gens respecteront ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient que c'est parce qu'ils n'ont rien qu'ils ne sont rien. Alors, ils se définissent par rapport à ce qu'ils ont et non par rapport à ce qu'ils sont. Et si tu te définis par rapport à ce que tu as, tu n'auras jamais. Ah, quand j'aurai ça, je serai. Quand j'aurai ça, je serai. Quand j'aurai ça, je serai. Non, tu n'auras jamais. Alléluia. Tu n'auras jamais. Nous avons pris notre texte d'étude dans le livre d'Ecclésias, chapitre 9, à partir du verset 15 au verset 16. Ecclésias, chapitre 9, le verset 15 au verset 16. Et là, nous avons vu l'histoire d'un homme d'une ville qui a été assiégée par un roi étranger. Et qui a vu sa délivrance à cause d'un homme pauvre et sage. Alléluia. Et la Bible dit que la ville a été sauvée à cause de la sagesse de l'homme pauvre. Mais lorsqu'il fallait récompenser, on ne s'est pas souvenu de lui à cause de sa pauvreté. Ça, c'est terrible. Qu'il ne soit jamais ta position au nom de Jésus. Que ce ne soit jamais ta portion au nom de Jésus. Que ce ne soit jamais ta portion au nom de Jésus. Parce que tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur. Tu connais ta valeur. Beaucoup de gens déterminent leur valeur en fonction de ce qu'ils ont comme réussite dans la vie. Ah, quand je vais me marier, je serai. Amen. Quand j'aurai le travail, si je serai. Quand j'aurai XX succès dans la vie, alors là, je serai. Or, c'est faux. Quand Dieu crée l'homme, il n'a rien de tout cela, mais il est. Amen. Il est ce que Dieu dit. Dieu dit, et cela était bon. L'œuvre de la création de l'homme dans son état naturel, simple, était une œuvre parfaite. Alors, quand tu crois que c'est en réalisant tel projet, que tu seras, tu es en train de dire que l'œuvre de Dieu n'est pas parfaite. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'œuvre de Dieu n'est pas parfaite. Alléluia. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas pour encourager les paresseux. Que non, bon, je n'ai pas besoin de travailler, je suis. Non. Loin de là. Alléluia. Alors, Salomon nous enseigne dans Proverbe 4, le verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, le centre de tout complexe, c'est le cœur. Le centre de tout complexe, c'est le cœur. Soit ton cœur te ramène vers le bas, soit ton cœur te ramène vers le haut. Il y a des gens qui ont le complexe d'infériorité, qui se sentent toujours mal à l'aise quand ils sont autour des autres, à côté des autres. Alléluia. Ils se sentent toujours mal à l'aise. Et je vous ai montré ça dans la Bible la dernière fois, avec Gédéon, qui avait un complexe d'infériorité, la pauvreté. Pauvreté mentale, il n'avait pas la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de pauvreté. Il y a la pauvreté mentale. C'est la plus dangereuse. Quand dans ton cerveau, là, il n'y a rien du tout. Amen. Alors là, tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Bien-aimé, quand tu crois que dans ta tête, il n'y a rien, il n'y aura rien. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé, Salomon va même plus loin. Il va dans Proverbe chapitre 23, le verset 7. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Bien-aimé, tu es ce que tes pensées sont. Tu es le fruit de tes pensées. Tu es le fruit de tes pensées. Alors, quel est l'état de tes pensées? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Alors, les pensées sont la somme de tes désirs. Est-ce que quelqu'un avec moi? Sont la somme de tes désirs. Qu'est-ce que tu désires? Et les désirs sont la conséquence de tes aspirations et de tes rêves. À quoi tu rêves? À quoi tu aspires dans ta vie? Quand tu t'assois, quand tu te couches, à quoi tu rêves? Comment vois-tu ta vie d'ici 2 jours, d'ici 1 semaine, d'ici 1 mois, d'ici 6 mois, d'ici 1 an? Toutes ces projections, bien-aimé, te permet de façonner la qualité de ta pensée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Te permet de façonner la qualité de ta pensée. Alors, tu peux naître dans une étable, mais être un roi dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un avec moi? Jésus est né dans une étable et il était déjà un danger pour Hérode. Alléluia. Alors, tu peux naître dans l'étable et être un danger pour le démon de votre famille. Mais tant que tu ne sais pas qui tu es, ce démon va triompher sur toi. Nous avons le cas de Gédéon. L'autel de la maison de son père triomphait sur sa vie alors qu'il était un vaillant héros. Alléluia. Alléluia. Il était un vaillant héros qui s'ignorait. Il était un vaillant héros qui avait une force, mais qui était faible parce qu'il n'avait pas une bonne connaissance de qui il était. C'est pourquoi la première chose que Dieu vient changer dans la vie d'un homme, c'est sa valeur. C'est sa valeur. Bien-aimé, c'est sa valeur. Si tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de pertinence. Si tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de pertinence. Alors, je voudrais encourager quelqu'un ici à faire beaucoup attention à ce que nous sommes en train de partager. Ce que vous êtes dans l'esprit se reflète dans le physique. Ce que vous êtes dans vos émotions, dans votre mental, se reflète dans le physique. Amen. C'est quoi Salomon va dire dans Proverbe 27, le verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme, bien-aimé. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Autrement dit, tu ne peux pas refléter ce que ton âme n'a pas. Autrement dit, tu ne peux pas devenir ce que ton âme refuse d'être. Si ton âme croit que tu n'es rien, alors tous tes efforts vont aboutir à rien. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est très important. Dis avec moi, change, dis à ton voisin, change de mentalité. Change de mentalité. Change de mentalité. Alléluia. Dis à ton voisin ton existence. Ou bien le but de ta vie, pardon, n'est pas déterminé par là où tu viens. Mais c'est déterminé par là où tu vas. C'est déterminé vers là où tu vas. Alléluia. C'est très important. C'est la raison pour laquelle le diable se bat tous les jours pour que les hommes restent dans leur passé. Et Dieu se bat chaque jour pour que les hommes se focalisent sur leur futur. Alléluia. Sur quoi le Seigneur va venir dire, ne vous souvenez plus des événements passés. Parce que tant que tu restes dans ton passé, ta vie reste dans le passé. Alors que ton corps est dans le présent, mais ton âme est dans le passé. Et c'est pourquoi le Seigneur va dire dans Jérémie 29, 11, que voici les projets que j'ai pour vous. Amen. Voilà les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. Projet. Quand on parle de projet, on voit une prospective. On voit une prospective vers l'avant. Dieu voit vers l'avant. Il ne se préoccupe pas de tes péchés passés. Ah, vraiment, si ça m'arrive, c'est toujours les mêmes choses dans notre famille. Personne n'a jamais réussi. Toi, tu vas réussir. Alléluia. Toi, tu vas briser le signe indien au nom de Jésus. Toi, tu vas briser la limitation au nom de Jésus. Toi, tu vas briser le sceau de l'adversaire au nom de Jésus. C'est ce que Dieu va dire. L'ange va dire à Gédéon, Gédéon, c'est toi que Dieu a choisi pour briser ces signes indiens dans la famille. Oui, les gens ne réussissaient pas. Je vais te montrer pourquoi ils ne réussissent pas. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons partagé que le pouvoir paralysant du complexe de pauvreté est capable de faire plusieurs choses dans la vie d'un homme. Premièrement, il est capable de te rendre, de t'incapaciter. Amen. De t'incapaciter, c'est-à-dire te rendre incapable. D'incapaciter les aigles de Dieu en les coupant les ailes. Vous savez, un aigle est un aigle à cause de ses ailes. Quand l'aigle n'a plus d'ailes, il devient la poule. Amen. Alléluia. Parce que la puissance de l'aigle, c'est sa capacité à aller très haut dans les cieux. Et qu'est-ce qui l'amène très haut dans les cieux? Ce sont ses ailes. Alors, le complexe peut rendre un héros esclave de son esclave. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, rappelons-nous de cet incident qui va avoir lieu au Mont Carmel. Le prophète Élie va commander, le feu va descendre, n'est-ce pas? Le feu va répondre. Après que les prophètes de Baal aient fait pour eux, le feu n'est pas descendu. Et à la suite de quoi, il va juger tous les prophètes de Baal par la mort. Au même moment, la Bible dit qu'au même moment, quelques minutes juste après, Jézabel envoie une petite lettre, une petite missive comme celle-ci, que mon frère, demain à la même heure, hein, ce que tu as fait à mes prophètes, je vais te faire ça. Amen. Le gars a fui. Il a oublié qu'il y a quelques instants, il a commandé, le feu est descendu. Il a oublié qu'il y a quelques instants, le ciel s'est ouvert à sa parole. Alors, si, entre le ciel qui descend du ciel, le feu qui descend du ciel et qui tombe sur la terre, Et une reine qui est plus forte que l'autre. Et c'est ça le problème. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent passer une nuit de délivrance, entrer dans des combats spirituels. Mais juste après, quand ils finissent la prière, ils sortent là. Un petit problème de 500 les rend mal à l'aise. Et voilà. Et quelle humiliation. Alors qu'il a passé la nuit à faire les combats spirituels terribles, Dieu lui a montré des choses incroyables. Mais quand il se dit, il oublie tout ce que Dieu a fait avec lui il y a 2 minutes. Alléluia. Alléluia. La même chose va se passer. Dieu va utiliser le peuple d'Israël pour combattre les nations ennemies avec sous la supervision du roi Saul. La Bible dit qu'un jour, ils vont avoir un conflit avec les Philistins. Les Philistins vont se réunir dans un espace de guerre. Et on va envoyer un héros qui va s'appeler Goliath. Goliath va venir. Il va dire, oh, écoutez, moi, je vais vous tuer. Envoyez-moi un champion, celui qui me frappe et me met à terre. Vous êtes nos patrons. Voici un peuple qui dépend de Dieu. Et un homme vient s'éteigner pendant 39 jours. L'homme leur rappelle que vous êtes sur le point de vous. Je suis sur le point de vous tuer. Je suis sur le point de finir avec vous. Je suis sur le point de vous couper les pieds, de vous couper les mains, de vous couper les jambes. Ils étaient sous l'onction des menaces de manière quotidienne. Alléluia. Alléluia. Entre Goliath et Dieu, qui était plus fort que l'autre? Ils ont oublié le Dieu qu'ils servaient. Ils ont oublié le Dieu qui les a délivrés il y a quelques jours de la nation ennemie. Alléluia. La Bible dit que tous sont rentrés sous les tentes. Tous sont rentrés sous les tentes, c'est caché. Parce que la voix de Goliath était comme le tonnerre. Pendant un mois, Goliath faisait le même défilé chaque matin. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Pendant un mois, l'ennemi les terrasse devant leur porte. Ils n'ont même pas le courage de sortir pour dire que ton problème, c'est quoi? Alléluia. N'eût été David qui est arrivé, qui a dit, mais quel est cet infidèle? Quel est cet inconscient? Aujourd'hui même, je vais donner ta tête à manger aux oiseaux du ciel. Bien aimé, autrement dit, pourquoi David dit cela? Parce qu'il connaissait qu'il était un roi. Toi, quelle est la connaissance que tu as de toi? Quelle est la connaissance que tu as de toi? Quelle est la révélation que tu as de toi? Paul dit que quoi? Paul dit aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la création? La création, c'est le ciel, la terre, les animaux, les plantes, tout ce qui vit et respire. Attends ta révélation. Tout ce qui vit attend que tu te réveilles. La révélation, c'est quoi? Que tu te réveilles. Que tu sortes de ton coma. À cause de ton coma, les choses meurent autour de toi. À cause de ton coma, rien ne marche autour de toi. Parce que tout, tu retournes sur toi. Oh, ma vie, tu ne comprends pas que tu es la solution des gens, des populations, d'une famille. Mais tu vois tout sur toi. Oh, c'est toujours comme ça que mes choses arrivent. Mais c'est parce que tu portes la destinée d'une famille. Alléluia. Celui qui porte la destinée de 100 000 personnes ne peut pas avoir les problèmes de celui qui porte la destinée de 2 personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un chef de famille qui a 10 personnes dans sa maison ne peut pas rationner comme celui qui est seul dans sa maison. Amen. Alors, quand tu vois la grandeur de tes épreuves, pose-toi la question, combien de personnes je porte sur mon dos même? Alors, si tu peux avoir 11 000 ennemis dans ta vie, ça veut dire que le peuple que tu portes dépasse les 11 000 ennemis que tu portes. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas, non, tu seras atteint. C'est ça, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Tu seras atteint. Allons-y dans le livre de Job, Job chapitre 4. Job chapitre 4, à partir du verset 3, il dit, voici, tu as souvent enseigné les autres, alléluia, maintenant, il dit, tu as souvent enseigné les autres, c'est le cas de beaucoup ici, n'est-ce pas, qui exhorte, qui encourage les autres, tu as fortifié les mains languissantes, c'est ton cas, n'est-ce pas, c'est ta situation, tu as fortifié les mains faibles, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Alléluia. C'est Dieu qui te pose la question, tu faiblis. Il dit, ton esprit, il dit, maintenant que tu atteins, tu te troubles. Alléluia. Ça veut dire que la faiblesse et le trouble dans lequel tu es ne sont pas de Dieu. Alléluia. Écoutez la suite. Il dit, ta crainte de l'Éternel n'est-elle pas ton soutien? Ta crainte de l'Éternel n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Cherche dans ton souvenir. Cherche dans ton souvenir. Dieu dit, cherche dans ton souvenir. Montre-moi un seul juste. Montre-moi un seul innocent qui a péri comme ça. Alléluia. Alléluia. Alors, ce pouvoir paralysant du complexe de pauvreté peut également enterrer prématurément les vertus et les potentiels des gens, peut stimuler l'esprit de mendicité et d'emprunt. Vous voyez, il y a des gens que beaucoup de gens vivent le complexe de pauvreté dans la mendicité et les emprunts. La mendicité s'explique comment? Dans un premier temps, ils aiment susciter la pitié partout où ils arrivent. Alléluia. Ils aiment qu'on ait pitié d'eux. Je souffre. Vraiment, ma vie n'a pas été facile. Vraiment. La pitié que les hommes vont te donner se transformera en mépris. La pitié que les hommes te donneront sera du mépris. La seule personne qui peut avoir pitié de toi et ta valeur est restaurée, c'est le Seigneur Jésus. Je souffre. Tu viens, tu portes un vieux pantalon, une vieille robe, une vieille greffe. On t'attaque, tu dis, je souffre trop. Tu connais les gens qui souffrent. Amen. Même la femme à la perte de sang avait tout dépensé son argent, mais elle ne mendiait pas. Quand elle a trouvé l'opportunité, elle s'est levée comme une brave femme qui a cherché sa délivrance. Et le Seigneur a répondu à son cri. Alléluia. Et le Seigneur a répondu à son cri. Vous voyez? Les gens ici aiment qu'on les assiste. On les assiste tout le temps. Tout le temps. Quand on parle, quels sont les gens qui manquent ici? Ils sont toujours dedans. Alléluia. Tout pour eux, ils prient tout. Oh Dieu, donne-moi les aides divines. Et ils ne veulent pas être les aides divines des autres. Oh Dieu, si dans ma vie les aides, quand est-ce que tu vas donner aux autres? Oh, quelqu'un qui est comme ça, c'est une personne chiche. Écoutez, bien-aimé, pour que Dieu puisse te donner, il faut donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, si tu restes dans la logique qu'on te donne, tu vas t'appauvrir. Vous voyez? Et il y a des gens qui ne savent même pas donner. S'il veut te donner sa chose, il calcule le nombre de bananes qui est dans la marmite, qui va mettre dans ton plat, il calcule. Il se rassure que vous êtes combien dans la maison. Il dit, je sais que chez vous, vous êtes quatre. Il met quatre bananes. Ni plus, ni moins. Amen. Alléluia. C'est le problème d'Ananias et de Saphira. Dieu leur avait béni en abondance, mais ils ont calculé. Qu'est-ce que cela a apporté? La mort. La mort. Alléluia. Oui. Le complexe d'infériorité stimule l'esprit de mendicité et d'emprunt. Incite les gens à se retirer et à prendre leur retraite prématurément. Alléluia. Et à prendre leur retraite prématurément. J'ai connu une dame il y a quelques années, Son mari était le premier magistrat de ce Cameroun. Il devait être celui qui devait être le président de la Cour suprême. Un matin, comme s'il allait au boulot, il a écrit sa démission. Il est parti. Il est rentré. Sa femme a dit, mais comment tu rentres tôt aujourd'hui? Il dit, ah, j'ai un voyage pour la France. Il est parti, il n'est plus revenu. La femme était enseignante ici, et enseignante dans un lycée de la place. Amen. La vie a commencé à décroître. Je connais le cas d'un monsieur. Il travaillait dans une entreprise. Vous voyez, quand le complexe de pauvreté dans la vie de quelqu'un, il devient comme un cinglé. Hein? C'est-à-dire, le monsieur bosse dans une entreprise, ça lui permet de payer ses factures, de gérer sa maison du jour au lendemain, sans aucune raison, sans autres opportunités, il démissionne. Il dit qu'il est fatigué qu'on le traite mal. Il est fatigué que vraiment, il est fatigué vraiment. Venir tout le temps, il est fatigué, il démissionne. On dit, tu as trouvé un autre, il dit que non, il va aller attendre à la maison. Il a mangé les réserves. Il a commencé à aller de maison en maison, il dit, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Vous voyez, le complexe, l'esprit de pauvreté. Le complexe d'infériorité attire la méfiance à l'égard des autres. Amen. La méfiance à l'égard des autres. Quand quelqu'un est sous ce complexe, bien aimé, il a le sentiment que les autres sont la cause de son échec. Maman Danibla me regardait mal. Elle a contribué à mon échec. Alléluia. Il ne se pose jamais les bonnes questions. Quand il commence la question, qui est derrière mon problème? Donc, quand ils arrivent dans l'église pentecôtiste, ça les arrange. Parce que tous les gens disent, feu sur mes ennemis, feu sur mes ennemis. Il oublie qu'il est son premier ennemi. Alléluia. Il ne traite jamais lui-même sa propre personne. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Il ne s'interroge jamais sur lui-même. Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Qu'est-ce qu'il fallait que je réajuste? Et c'est un problème. C'est un problème. Le complexe d'infériorité détruit l'image publique et la vie sociale. Bien-aimé, ça détruit l'image publique en faisant comment? En vous amenant à vous sous-estimer. À vous sous-estimer. Les autres aussi peuvent vous mépriser à cause de vos vêtements en lambeaux et de votre allure miteuse. Personne ne veut vous fréquenter. Regardez. Depuis que je sais le Seigneur, j'ai vu toute catégorie de personnes. Et seulement en regardant la manière que la personne s'assoit à l'église, je peux déterminer quel complexe agit dans sa vie. Amen. Je peux déterminer le type de complexe. Je n'ai même pas besoin de prophétiser et dire que la pauvreté dans ta vie, la manière que tu t'assois, tu es déjà pauvre. Amen. Est-ce que je peux vous prouver ça? Regardez, tout le monde change sa manière et s'assoit maintenant. Alléluia. Amen. Oui. La seule manière avec laquelle ils entrent, ils s'asseyent, tu sens que cette personne-ci, c'est pourquoi les faux prophètes vont vous avoir. Je vois la pauvreté dans ta vie. Oh, bah, yeah. Oui, la manière que tu entres, c'est psychologique. C'est psychologique. C'est psychologique. Alléluia. Tu auras beau t'arranger, ça va toujours rester. Même si tu te dis 5 minutes, assois-toi normalement. Ce complexe va toujours refléter. Parce que tu ne peux pas être plus que ce que ton âme est. Tel il est, tel est son âme. Amen. Il est tel que est son âme. Tu ne peux pas, si ton âme est triste, tu vas sourire. Tu ne vas pas sourire. Tu ne vas pas sourire. C'est pourquoi beaucoup de gens portent les lunettes noires. Pourquoi on ne voit pas les yeux? Ils cachent des complexes avec leurs lunettes. Alléluia. Le complexe de pauvreté empêche un homme de semer des semences qui lui auraient ouvert les portes de la bénédiction. Empêche un homme. Vous voyez, comme il n'a rien à offrir comme semence, il peut rester stagnant parce qu'aucune récolte ne vient à lui. Bien-aimé, comprenez une chose. Rien sur la terre ne se manifeste sans une semence. Rien. Alors, si tu dis que tu es pauvre et que tu ne sèmes rien, ton état ne va pas changer. Maintenant, la semence, ce n'est pas automatiquement ce que tu donnes sur le plan financier ou matériel. La semence peut être également ce que tu sèmes par rapport à ton comportement, à ton caractère. Amen. Tu décides de ne plus te positionner comme ça, mais tu décides de te positionner comme ça, quel que soit ce que tu vas ressentir en toi. Amen. Tu décides d'être heureux. Tu décides de sourire. C'est une semence. Tu décides de sourire pour tout, d'être joyeuse dans ce que tu as, dans le peu que Dieu te donne. Mais aujourd'hui, il y a des gens, même si tu leur donnes 1 milliard, ils vont te être tristes. Parce que c'est là-dedans le problème. C'est là-dedans. Et je vous ai dit, bien-aimé, le démon qui ne fait jamais de bruit dans la vie d'un homme, quand il est dedans ou quand il sort, c'est le démon de pauvreté. Amen. Il ne parle jamais. Les autres parlent. Je suis le démon de la sorcellerie. J'ai mangé ta vie. J'ai mangé ton pied. Ton bébé là, c'est moi. Mais la pauvreté, lui, il ne parle pas. Parce que l'argent ne fait pas le bruit. Il ne parle pas. Comment tu sais qu'il est parti? Quand les choses évoluent. Quand les choses évoluent. Amen. Alors, vous devez savoir, bien aimé, que le complexe de pauvreté est l'handicap le plus grave qu'un homme puisse avoir, car il ronge les tissus internes et externes de sa vie. Plus vous nourrissez le complexe de pauvreté, plus vous êtes considéré comme votre propre ennemi, luttant contre vous-même, puisque Dieu lui-même ne peut vous aider sans votre coopération et votre permission. Alléluia. Dieu ne peut pas t'aider sans ta coopération. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que je peux vous montrer ça? Allons dans le livre de Genèse. Alléluia. Allons dans le livre de Genèse. Alors, je crois Genèse 32. Alléluia. Genèse 32, à partir du verset 24. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait contre lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Amen. Regardez, la Bible dit qu'il a lutté contre un homme. Il a demeuré seul, il a lutté contre un homme. Mais cette bataille était importante dans la vie de Jacob. Alors, si vous rentrez en arrière quand Jacob, on va dire, vole, entre guillemets, la bénédiction de son frère auprès de son père, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Son père le bénit, n'est-ce pas? Son père le bénit. Jacob est béni. Il a reçu la bénédiction générationnelle. Mais rien ne marche dans sa vie. Rien ne marche. Il connaît que déception et souffrance. Or, rappelez-vous que quelques passages plus tard, toujours le chapitre 33 du livre de Genèse, on voit la rencontre avec Ésaü, n'est-ce pas? Et Ésaü lui dit quoi? Regarde comment j'ai été béni. Alléluia. Il nous montre les bénédictions. Mais des deux qui avaient reçu la bénédiction paternelle, Jacob, mais rien ne marchait dans la vie de Jacob. Au point où on l'a même trompé avec une femme. Au point où pour avoir même quelque chose, c'est Dieu qui est intervenu pour qu'il ait un peu le troupeau. Parce qu'on a changé son salaire 10 fois. Mais il est béni. Quelle est cette bénédiction qui ne marche pas? Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette jarre d'onction. Rien ne marche. Un complexe. Un complexe peut paralyser les capacités que tu as en toi. Amen. Quelque part, Jacob s'en voulait et il se disait certainement, « Ah, ce que je vis, c'est parce que j'ai fait du mal à mon frère. » La culpabilité. Ce que je vis. Et jusque-là, il n'avait pas encore totalement abandonné les clés de sa vie entre les mains du Seigneur. Il dirigeait encore lui-même ses choses. Il avait encore la même mentalité. Bien-aimé, il y a des mentalités, même si la main de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas prospérer avec ça. Il y a des comportements, même si Dieu est... Tous les prophètes du Cameroun et du monde vont dire des choses extraordinaires sur ta vie. Rien ne va déclencher tant que ce complexe-là, cette mentalité-là, tu ne la changes. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas prospérer avec quelqu'un qui est orgueilleux. La parole de Dieu dit que quoi? Il résiste. Jacob était orgueilleux. Jusqu'au jour où il rencontre cet homme. Dieu vient comme un homme. Et dit, maintenant, c'est une bataille d'homme à homme. Pour délivrer un homme, il faut un homme. Et l'homme le brise quoi? L'emboîture de la hanche. La hanche, c'est là-bas que la ceinture de la vérité se tient. C'est-à-dire, il vivait dans quoi? Le mensonge. Dieu va briser l'emboîture de sa hanche pour dire ta vérité là n'est pas la vérité de Dieu. Tu l'abandonnes ici et maintenant. Tu abandonnes cette vérité là. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Beaucoup de gens ont des comportements qu'ils tiennent dans leur cœur, qu'ils tiennent dans leur vie. Bien-aimés, ce sont tes reins qui permettent que ton corps se tienne debout. Si tu n'as pas de reins, tu vas te coucher. Allez voir ceux qui font l'hémodialyse. Ils ne peuvent pas tenir debout plus d'une heure. Ils s'épuisent. Alors, si Dieu attaque les reins d'un homme, ça veut dire qu'il attaque aussi sa vérité. Et au-delà de ça, il fait en sorte que ce problème n'affecte pas sa progéniture, parce que les reins représentent aussi la postérité d'un homme. Ce mensonge va s'arrêter avec toi. Cette manière de voir les choses s'arrête avec toi. Si tu transmets ça à tes enfants, on est mort. Alléluia, bien-aimé. Alors, il est donc important pour nous de changer notre façon de voir les choses, de voir Dieu surtout, et de comprendre les vérités de Dieu. Amen. De comprendre les vérités de Dieu. Vous ne pourrez jamais être vaincu tant que vous n'aurez pas perdu confiance en vous et en Dieu. Alors, Job chapitre 5, le verset 3 à 7. Job chapitre 5, le verset 3 à 7. Job dit, j'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par les affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Vous voyez, bien aimé? En général, derrière chaque problème qui arrive à un homme, il y a un esprit ou un groupe d'esprits qui l'active. Les choses ne se produisent pas par hasard. Elles se produisent parce qu'une force, qu'une sorte de force s'exerce sur elles. Vous voyez? Job dit ici dans Job 5, il dit que le malheur ne sort pas de la poussière. Quelqu'un provoque le malheur dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Il dit, la souffrance ne germe pas du sol. Alors, pour que tu souffres, quelqu'un provoque cela. Et ce soir, tu dois prier. Ce complexe de pauvreté doit être brisé sur ma vie. Au nom de Jésus. Dis avec moi, ce complexe de pauvreté doit être brisé sur ma vie. Ce complexe de pauvreté doit être brisé sur ma vie. Ce complexe de pauvreté doit être brisé sur ma maison. Ce complexe de pauvreté doit être brisé sur ma famille, sur mes projets, sur mes entreprises. Au nom de Jésus. Amen. Alors, regardez quelqu'un qui vient d'être riche, qui n'a pas la culture de la richesse dans sa vie. Alors, lui croit qu'être riche, c'est porter des vêtements de marque. Hello. Bien-aimé. Le propriétaire de Louis Vuitton ne s'habille pas en Louis Vuitton. Il s'habille simplement. Hello? Mais tous les riches qui viennent d'arriver, ils veulent que Louis Vuitton soit sur tous ses habits jusqu'à il habille son véhicule en Louis Vuitton. C'est un complexe. C'est un complexe parce que beaucoup de gens croient que c'est le regard des autres sur leur vie qui détermine qui ils sont. Alléluia. Alléluia. C'est le regard des autres sur leur vie. Comment les gens vont me voir? Il faut que je les blase. Je les blase. Quand ils vont me voir, ils vont dire, la jeune fille ici, son style d'habillement, laisse. Il y a une jeune femme qui est passée sur nos télévisions récemment. J'étais choqué. Quelqu'un m'a envoyé un extrait de ses paroles. Amen. Un extrait de ses paroles. Et cette fille, elle se fait appeler, apparemment, elle croque une pierre précieuse. Alléluia. Elle croque que ça. Amen. Alors, lorsque on l'a interviewée sur une chaîne, bien aimé, je crois que beaucoup ont écouté. Beaucoup ont été scandalisés. Amen. Beaucoup étaient scandalisés. À un moment, il y a un endroit où elle a dit qu'elle est anglophone. Elle ne maîtrise pas bien le français, mais parle en anglais. Le Cameroun n'est-il pas bilingue? Parle en français. Mais quand tu vois les actions de cette personne, tu te rends compte qu'elle essaie d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Parce qu'elle n'a jamais été ça. Alléluia. Alors, tous ces gens qu'aujourd'hui on appelle influenceurs essayent d'être des choses, des personnes qu'ils ne sont pas. Ils essaient de fuir une identité qui n'est pas la leur. Et du coup, tout le monde veut ressembler à eux. Or, c'est éphémère, c'est passager. Tout cela est passager. Sois toi-même. Alléluia. Sois toi-même. Sois toi-même. Sois toi-même. Alléluia. Sois toi-même. Sois toi-même. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé. Plusieurs attitudes font que nous amènent. Plusieurs comportements font que nous demeurons dans un certain état des choses. Alléluia. La fausseté. Tu ne peux pas prospérer dans la fausseté. Tous ces gens vivent dans la fausseté. Le monde est rempli de fausseté. J'écoutais l'interview d'une autre où un journaliste lui a posé la question, est-ce que tu penses que tu peux... Comment vous appelez cette histoire quand vous vous filmez, vous mettez les filtres? Voilà. On dit, est-ce que tu peux encore rester sans les filtres? Elle a dit, jamais de ma vie. Je ne peux pas rester sans filtre parce que je ne me sens pas à l'aise dans mon corps sans le filtre. Vous voyez? Elle vit une vie d'illusion. D'illusion. Alors, quand tu la vois avec le filtre sur ton écran de téléphone, tu dis, waouh, quelle beauté. Waouh, c'est comme ça que je veux être. Alors qu'en réalité, elle n'est pas comme ça. Et c'est ça le complexe. C'est ça le complexe. Regardez, un autre. Regardez, les gens qui produisent l'argent dans le monde ont compris comment manipuler les êtres humains. Ils ont compris que manipuler l'homme, c'est manipuler ses émotions et ses sentiments. Amen. Regardez le réseau social qu'on appelle TikTok. Amen. En Afrique, si vous regardez les contenus en Afrique, c'est la nudité. C'est les danses bizarres, serpents. Les danses bizarres. Alléluia. Rien d'utile. Des challenges étranges. Un jour, on faisait le challenge, une chanson, quelqu'un buvait le carburant, il est mort. Ou bien, qui a dit qu'on boit le carburant quelque part et puis on est à l'aise. Il y a un autre challenge, une femme a pris de la colle, elle s'est chaulée les cheveux, la chevelure est calée. Elle a dit qu'elle va porter plainte contre la marque de la colle. On dit colle, on n'a pas dit défriseur. Amen. On a dit colle, le fabricant a mis colle forte. tu dis que tu vas créer une nouvelle tendance et la chevelure a collé. Elle a dit qu'elle va porter plainte. Complexe. Maintenant, regardez le même réseau social. C'est les Chinois qui l'ont créé. Amen. Vous allez en Chine, c'est à des contenus éducatifs. On va sur TikTok apprendre un métier. On va sur TikTok être meilleur dans sa tête. Vous ne verrez pas les contenus dans ça. En fait, on a bloqué cette partie-là en Afrique. Et encore, nous connaît tout le temps. On se dénude. Alléluia. Parce qu'on a compris comment attraper les jeunes. Tu mets 500 dans ton téléphone, c'est pour te dénuder dessus. Et les pasteurs passent là-bas, font les challenges étranges. Ça devient très compliqué. Même les enfants de Dieu tombent dans le piège. Ils disent qu'ils vont sur TikTok prêcher la parole. Tu ne vois aucune parole. Mais bien-aimés, tout cela n'est que le symbole de la fausseté. Le diable enseigne la fausseté. Et cette fausseté produit quoi? Le complexe de pauvreté. Le complexe de pauvreté. On te dit que pour être une belle fille, il faut être mince comme telle. Les grosses filles ne sont plus à la mode. Qui t'a dit ça? Alléluia. Alléluia. Éloigne-toi de la fausseté. Éloigne-toi de la parole mensongère. Alléluia. Ne donne ni pauvreté ni richesse. Vous voyez? Et ça, c'est la prière de David. David fait cette prière. Proverbe chapitre 30, verset 8. Il dit, éloigne-moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Il dit, ne m'accorde ni pauvreté ni richesse. Ça, c'est la prière de Salomon à Dieu. Ni pauvreté ni richesse. Bien-aimé, que vous ne mangiez pas n'importe quoi ou n'importe comment. Que Dieu vous donne la bonne nourriture au nom de Jésus. Lorsque la famine et la pauvreté frappent un homme, Toute chose amère est douce dans sa bouche. Il en est ainsi parce qu'il ne pense pas au goût ou à la saveur de la nourriture, mais à la manière dont il peut remplir son estomac. Vous voyez, quand quelqu'un est pauvre et quand quelqu'un a faim, tout ce qu'il trouve, même les légumes de lait là devient sucré dans sa bouche parce qu'il a faim. Tout ce qu'il a comme mécanique dans sa tête, c'est remplir son ventre. Mais quand quelqu'un est riche, il ne mange pas n'importe quoi. Alors, voici quelques esprits qui agissent dans la vie des pauvres partout dans le monde. Premier esprit, l'esprit de vol. Amen. Quelqu'un qui est sous le complexe de pauvreté va toujours voler. L'esprit de vol. Le pauvre est contraint par cet esprit de voler quelque chose contre son gré. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31. Proverbe 6, 30 à 31. Un pauvre homme est allé emprunter une marmite pendant la journée. Alléluia. Un homme pauvre, il allait emprunter une marmite pendant la journée. Et les gens se demandaient ce qu'il allait faire d'une si grosse marmite, vu qu'il était pauvre. Alléluia. Alors que rien n'indiquait qu'il préparait un festin, une grande fête. Et le soir, l'homme pauvre est allé voler la chèvre dans le voisinage et l'a fait bouillir pendant la nuit. Le lendemain matin, on va l'accuser d'avoir volé la chèvre, car il savait, tout le monde savait qu'il n'avait pas d'argent pour préparer un repas susceptible de remplir la marmite qu'il avait empruntée. Alors le gars, il a nié et on lui a demandé d'expliquer la relation entre la chèvre manquante et la marmite qu'il avait empruntée. Amen. À cause de la pauvreté, il s'est retrouvé à voler la chèvre de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, c'est ce même esprit qui pousse les gens à manger leur dîme et à rester pauvres et misérables toute leur vie. Alléluia. Ils volent la dîme de Dieu. Je ne vais pas te donner le verset, c'est que tu as mal dormi. Alléluia. Amen. Ce qui vous pousse à voler la dîme de Dieu peut aussi vous pousser à voler votre prochain. Sans problème. Le deuxième esprit qui agit dans celui qui a l'esprit de pauvreté, bien-aimé, c'est l'esprit de haine, de rejet et d'amertume à l'égard des gens. Amen. L'esprit de haine, de rejet et d'amertume à l'égard des autres, des gens. Les gens vous détestent lorsque vous n'avez pas d'argent pour les aider ou les soutenir. Le pauvre aussi déteste les gens et est toujours amer contre ceux qui refusent de l'aider. Alléluia. Est toujours amer. Aucun homme ne peut se lier d'amitié ou s'associer avec un pauvre et un misérable. C'est ce que dit la Bible, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 20. Le pauvre est odieux même à son ami. Amen. C'est-à-dire le pauvre est malhonnête même avec son ami. Il dit, mais les amis du riche sont nombreux. Alléluia. Proverbe 19, verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Alléluia. Un des symptômes des gens qui vivent sous le complexe de pauvreté, c'est qu'ils se plaignent toujours de tout le monde. Ah, on m'a abandonné parce que j'ai quoi? J'ai rien. Est-ce que je suis l'ami de quelqu'un? Est-ce que je suis l'ami de quelqu'un? Bien-aimé, tu peux te faire des amis sains si ta tête est saine. Amen. Tu peux avoir des amis bien si ta tête est saine là à l'intérieur. Le problème que tu n'as pas d'amis, c'est parce que quand les amis arrivent, tu as envie de tout prendre dans leur vie. Et ça, la pauvreté. La pauvreté cache en lui l'esprit d'envie et de jalousie. Parce que tu n'as pas, tu as envie pour les autres. Tu as envie. Alors le troisième esprit, c'est l'esprit d'envie et de jalousie. D'envie et de jalousie. Alléluia. Ce complexe fait que quand on ne te donne pas, tu as envie. Et quand tu as envie, tu méprises. Ah, c'est parce que tu as l'habit là que tu parles comme ça. Laisse. C'est seulement le témoignage du fait que l'habit là t'intéresse. Alléluia. L'habit là t'intéresse. Mais comme tu ne peux pas demander simplement, dire, hey, ma soeur, ton habit là m'intéresse. S'il te plaît, si je peux avoir un habit aussi comme ça, je serai très bien content. Amen. Sainement, sans envie, sans jalousie. Mais comme ton cerveau est rempli de démons là, c'est compliqué. Le diable te conseille mal. Et tu envies ton frère. Alléluia. Quatrième esprit qui marche avec les pauvres, c'est l'esprit de mensonge et de tromperie. L'esprit de mensonge et de tromperie. Les pauvres sont plus enclins à mentir et à tromper que ceux qui sont à l'aise et réussissent financièrement. Ce n'est peut-être pas leur souhait de mentir et de tromper les gens, mais ils sont obligés de le faire pour survivre. Alléluia. Pour survivre. Vous voyez? Prenons l'exemple de cette femme qui a donné naissance à un enfant à l'hôpital, mais qui n'a pas pu réunir suffisamment d'argent pour payer la facture de l'hôpital. Alors, lorsque le moment de la sortie de l'hôpital est arrivé, elle a commencé à réfléchir à la ruse de voler, de jouer pour faire la ruse à jouer pour faire sortir son enfant de l'hôpital. Regardez, l'histoire raconte que cette femme a emballé l'enfant dans un sac en polystyrène. Alléluia. Et a menti à l'infirmière de garde en lui disant qu'elle se promenait. Amen. Et voilà qu'elle s'est enfuie avec l'enfant. Elle l'a mis dans un carton. Elle a fait croire que c'est la saleté qu'elle n'a pas jetée. Et c'est comme ça qu'elle est sortie de l'hôpital. Vous voyez? Et elle a fait que l'enfant est né, a grandi, avait une dette sur sa vie. Il doit son pays, la terre natale. Il doit déjà. Alléluia. Un autre esprit, bien-aimé. L'esprit de mendicité et d'emprunt. Vous voyez? L'esprit de mendicité et d'emprunt. Nous l'avons dit tout à l'heure. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, le verset 7. La pauvreté pour les gens à mendier et à emprunter. Vous voyez, il y a des gens qui vivent que dans les dettes. Ils empruntent pour rembourser à gauche, pour rembourser à droite, pour rembourser à gauche, pour rembourser à droite. Alléluia. Ça, c'est leur vie. C'est l'esprit de pauvreté. Alléluia. Oui, la Bible dit que quoi? Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. La personne emprunte à gauche pour rembourser à droite, pour emprunte à A pour rembourser à B, prend à B pour rembourser à C, prend à C pour rembourser. Alléluia. Si tous ces créanciers se rencontrent un matin, elle est morte. Alléluia. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Un autre esprit qui accompagne ceux qui ont l'esprit de pauvreté en eux, bien-aimés, c'est le complexe d'infériorité. Le complexe d'infériorité. Oui, bien-aimés. En général, les pauvres fuient leurs responsabilités et agissent comme s'ils étaient inférieurs à leurs compagnons riches. Amen. Est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai? Pourquoi tu ne soutiens pas? Est-ce que j'ai? Moi, j'ai quoi? Moi, j'ai rien. Moi, je ne suis rien. Alléluia. Tout le temps, ils sont toujours en train de se dédouaner de leurs responsabilités. Amen. Tout le temps, ils sont en train de vous faire croire que c'est à cause de la société qu'ils sont comme ça. Donc, vraiment, il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas trop les demander. Amen. C'est très dangereux. Et souvent, en raison de leur dette, ils se sentent intimidés lorsqu'ils se présentent devant les riches. Amen. Ils se sentent intimidés. Quelqu'un a dit qu'il a changé sa position de s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Un autre esprit qui attaque ceux qui sont sous l'emprise de la pauvreté, bien-aimés, l'esprit de suicide. Les personnes frustrées et pauvres sont enclines à sauter la vie lorsqu'elles subissent la pression de l'esprit du suicide. Elles pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que de se tuer. Bien entendu, c'est une erreur. Alléluia. Vous devez développer la volonté de rester fort et d'affronter les batailles de la vie. Alléluia. Et d'affronter les batailles de la vie. Et d'affronter les batailles de la vie. Un autre esprit qui attaque ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit de pauvreté, bien-aimé. L'esprit des haillons. L'esprit des haillons. H-A-I-2-L-O-N. Alléluia. H-A-I-2-L-O-N. L'esprit des haillons. Vous voyez, les pauvres finissent en haillons parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter de nouveaux vêtements. C'est ce que dit la Bible. Proverbe 23, le verset 21 dit que quoi? Car l'ivrogne est celui qui se livre à des excès s'abauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Amen. Les haillons, ça montre la qualité de leurs vêtements. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un bien-aimé, même si tu es dans quel état, même si tu n'as qu'un seul habit, nettoie ça correctement et habille-toi. Amen. Alléluia. C'est une manière de dire merci à Dieu pour déjà ce que tu as. Parce que tu aurais pu marcher nu. Tu fais comment? Oh, j'ai que le même habit. Il n'y a pas de problème. Tant que c'est propre et bien entretenu. Amen. C'est bien entretenu. L'esprit des haillons. Ouais, il y a des gens qui aiment porter les haillons. Ils portent des vieux vêtements pour qu'on ait pitié d'eux, comme les Gabaonites. C'était des peuples riches, mais qui sont décidés d'être pauvres pour survivre. Ils sont allés porter des vieux vêtements sales, déchirés, prendre des pains rassis et aller à la rencontre de Josué. Et ils sont devenus les porteurs d'eau et les coupeurs de bois du peuple d'Israël. Ils ont dit jusqu'à la fin de leur vie. Alors, il y a des gens comme ça qui sont les esclaves parce que leurs parents ont décidé d'être esclaves alors qu'ils étaient des hommes libres. Je te déconnecte au nom de Jésus. Je te déconnecte au nom de Jésus. Je te déconnecte au nom de Jésus. Alléluia. Un autre esprit. Un autre esprit. L'esprit de colère. Voyez? L'esprit de colère. On dit d'un homme affamé qu'il était un homme en colère. Amen. Il porte en permanence l'onction de la contrariété ou de la vexation. Donc, tout le temps, il est en colère, il est fâché. Parce qu'il n'a pas, il est fâché. Vous allez voir des gens là-bas. Quand je conduis, parfois, je roule, j'arrive quelque part, je vois des gens, ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Quand tu l'esquives, il dit que hein, tu veux me tuer seulement. Tu sens qu'il est en colère à cause de sa condition. Il t'en veut parce que toi, tu as la voiture. Lui, il est à pied. Pourquoi? C'est l'esprit de pauvreté. Est-ce que quelqu'un a vécu ça? Hein? Tu roules, tu arrives, une moto, tu esquives la moto. Dit, hein, on t'a demandé quelqu'un. Toi, tu n'as... C'est l'esprit de pauvreté, bien-aimé. Hein? Vous voyez? Et toi qui es le client derrière, il te raconte du coup une histoire qui n'a ni tête ni queue pour expliquer sa condition. Hein? Vraiment, la vie ici est mon frère. La vie ici, les gens sont méchants ici dehors. Vraiment, je suis énervé. Il y avait une émission à une certaine époque à Equinox, ça s'appelait, et tu partais là-bas, le titre c'était Je suis énervé. Alléluia. Quand tu as appelé, tu dis, je suis énervé. On dit, pourquoi? Tu dis, je suis énervé parce que. Alléluia. Tellement l'énervement là mettait tout le monde énervé qu'ils ont arrêté l'émission parce que ça énervait tout le monde. Alléluia. Bien-aimé. Il y a des gens comme ça qui sont tout le temps en colère à cause de leurs conditions. Ils sont en colère. Ils sont en colère. Alors, si toi, tu tombes sur son chemin le jour-là, il bagarre avec toi. Il bagarre avec toi pour tous ses problèmes. Alors que toi, tu crois que la bagarre, c'est parce que tu as bousculé sa chaussure. Non, tu règles tous ses problèmes là, maintenant. Amen. On disait un temps que les mamans savent marcher avec tout leur carnet médicaux. Alléluia. Quand tu roules comme ça, tu les esquives, elles tombent à terre. Elle dit, ah, j'ai mal, le rhumatisme, la tête, le dos, il faut la radio, il faut le scanner. Elle a ses examens dans la poche. Alléluia. Bien-aimé. Un autre esprit. L'esprit d'avarice. L'esprit d'avarice. Vous voyez? Comme le pauvre n'a pas assez d'argent pour se nourrir et encore moins pour épargner, il change d'orientation dès que l'argent entre dans ses mains. Vous voyez? Il a tendance à être avare. Avare, ça veut dire qu'il ne donne pas aux autres. Le pauvre ne donne pas, il veut qu'on donne. Regardez la veuve, la pauvre veuve de Sarepta quand Élie va la rencontrer. Élie dit que fais-moi à manger. Qu'est-ce qu'elle dit? Je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Je vais manger mon enfant et moi. Chiche! Après quoi, nous allons mourir. Le prophète dit que madame, Dieu m'a dit qu'il t'a ordonné de me donner à manger. Donc, arrête ta folie là. Fais d'abord et mange. Après, on va régler ta situation. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Leur pauvreté fait que eux, ils croient dans leur tête. Ah, quand tu viens, tu n'as pas préparé. Ah, j'ai même quoi? J'ai fait que deux plantains là, il a tout mangé. Ils ne connaissent pas donner même aux voisins. Ils ne connaissent pas donner à quelqu'un à côté d'eux. Eux, ça calque chez eux. C'est tout pour eux, tout pour eux. S'ils ont des enfants, tout pour leurs enfants. Personne. Et de telles personnes, vous allez les remarquer dans les fêtes. Ne les invite pas dans tes fêtes. Amen. Ils vont se servir comme l'étage. Ils vont faire trois niveaux sur le plat. Et quand il vient pas seul, il vient avec toute sa famille. Tout le monde sait trois étages. Personne ne donne. Alors, tu les regardes seulement. Esprit de pauvreté. Quand quelqu'un est tranquille dans sa tête, il arrive à la fête, il ne mange pas beaucoup. Il mange le niveau de son ventre. Le pauvre mange pour un mois. Il ne sait pas à quel péril il va encore avoir l'autre. Donc, du coup, la viande, si ça va durer avant qu'il va manger le poulet. Donc, bêta, il mange ça vite ici. Alors, si tu n'as pas changé de mentalité, même lorsque Dieu va te bénir, tu ne te rendras pas compte. Amen. Parce que tu n'as pas la culture de donner. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut s'aimer des comportements. Il faut s'aimer des attitudes. Même dans ce que tu as, même si tu as un, donne pour l'autre. Divise, tu donnes à l'autre. Si tu commences à faire ça, quand tu auras beaucoup, tu donneras. Ça commence toujours avec un peu. La bonté, c'est quand tu as un peu. Ce n'est pas quand tu as beaucoup. Regardez, ceux qui ont même beaucoup d'argent ne payent pas leurs employés. Vous avez constaté ça, non? Tu travailles comme ça. Combien de DG ici dehors que les entreprises sont en train de chambouler? Leur salaire pas chaque mois. Est-ce qu'ils s'en foutent? Est-ce qu'ils te regardent? Tu as 6 mois de loyer, il dit que c'est l'État, mais son salaire passe. Mais il vous dit que c'est l'État, allez gréver. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut arriver? Est-ce qu'on peut continuer? Quelqu'un dit qu'il vient même avec les plastiques au fait. J'ai oublié l'autre détail là. Il se rassure de rentrer avec le reste de la nourriture. Attention. Faisons le plein du mois. Alléluia. Un autre esprit qui opère dans la vie de celui qui est attaqué par l'esprit de pauvreté, l'esprit de confusion. De confusion. Chaque fois que le pauvre pense à sa situation, il est plus confus et a assez de la vie. Oh, vraiment, ma vie. Ah, ma vie. Ah, c'est comment? Ne pense plus à ta situation présente. Jésus a un plan pour toi. Alléluia. Jésus a un plan pour toi. Un autre esprit, l'esprit de sommeil. Le pauvre, lui, un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Proverbe 20, le verset 13. L'esprit de sommeil. Voyez. Quand tu es avec quelqu'un qui passe son temps à beaucoup dormir, tu es en danger. Alléluia. Qui passe son temps à beaucoup dormir. Quand il se réveille, il ne fait rien. Il a encore sommeil. Et avec quelqu'un que en journée, il ne fait rien, mais il te dit tout qu'il est fatigué. Vraiment, je suis fatigué. Tu sens la fatigue, c'est comme moi. Il fait chaud, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est toujours sensible au temps qui se fait. Oh, il fait froid, hein. Tu ne sens pas le froid, si. Tu ne vas pas aller dormir. Alléluia. Ça, c'est un agent de la pauvreté. Quelqu'un qui est bosseur, frère, il ne connaît pas s'il pleut, s'il fait soleil. Il est dehors chercher son agent. Amen. Il ne connaît pas le temps. Beaucoup ici travaillent. Hein, je dis, Danique, quand il pleut, très tôt le matin, là, tu ne vas pas au travail. Hein? Tu trouves le moyen, un par-dessus, des bottes, un parapluie, tu trouves une voiture qui va t'amener au boulot. Mais le pauvre, il va dire que... le pauvre paresseux, il va dire que... Il pleut. Dormons. La poussière. Et c'est les pauvres paresseux, c'est les radiocassettes. C'est-à-dire que quand la pluie finit, c'est les premiers qui se lèvent pour dire qui, la toiture de qui a sauté. Alléluia. La maison de qui a été noyée dans l'eau. Ils ont tous les divers du quartier. L'esprit, un autre esprit, l'esprit de paresse et d'excuse. De paresse et d'excuse. Proverbe 26, le verset 13 à 16. Le verset 13 à 16. La Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Vous voyez, il voit le lion où? Dans la rue. Il dit que lève-toi, il dit que non, il fait trop chaud. Lève-toi, allez, non, il fait très frais. J'ai l'allergie du froid. C'est les pauvres, c'est les paresseux qui ont beaucoup d'allergies. Hein? Est-ce que quelqu'un voit ça? Les paresseux ont toutes sortes d'allergies. Ils ont l'allergie au soleil, même ce que tu ne peux même pas imaginer, ils ont. Tout ça pour avoir l'excuse de ne rien faire. J'ai l'allergie sur mes doigts. J'ai l'allergie au froid. Non, pas beaucoup le ventilateur. J'ai l'allergie au soleil. J'ai l'allergie à l'obscurité. J'ai l'allergie à la lumière. Tu vas alors faire quoi dans ta vie? Tu vas faire quoi de ta vie? Il faut que tu sois reine. Et tu aies un royaume avec les serviteurs. Comme ça, on te sert. Même le roi s'élève. La Bible dit qu'il trouve pénible... Quand il envoie la main dans le plat, il trouve pénible de la ramener à la bouche. Quand il me dit, oh, mais manger là, pardon, est-ce que tu peux me nourrir? Le paresseux. Nourris-moi. C'est-à-dire que c'est un roi, nourris-moi. Tu épouses un mari comme ça, tu es mort. Tu as passé toute ta vie à le nourrir. Tu épouses une femme comme ça, tu es fini. Tu as passé toute la vie à lui mettre ça dans la bouche. Mange alors. Tu manges. C'est pimenté, c'est est-ce que tu peux mettre le piment dessus? Alléluia! C'est trop pimenté aujourd'hui. Alléluia! Bien aimé, il y a une chose qui m'a toujours... J'essaie déjà de me faire ça, amen. Mais moi, je n'y arrive pas, je n'ai jamais pu y arriver. J'aimerais que vous m'aidiez si je suis dans le tort, amen. Chaque fois... Je vois certains hommes marcher avec des femmes à côté d'eux et ils portent le sac de la femme. Alléluia. Je dis, mais c'est quoi ça? Un jour, j'ai failli faire ça. Maman a arraché son sac. Donne-moi ton sac. Tu es mon mari, tu n'es pas mon boy. C'est comment? Amen. D'autres trouvent ça élégant. Élégant qu'un homme marche avec le sac d'une femme. Hein? C'est beau. Maman Hélène, c'est beau. Ah, maman Daïbla, c'est beau. OK. Le romantisme. OK. Ok. Maman, j'ai écrit, c'est beau. C'est le romantique. Ça dit que c'est beau, alors. Ok. Tu ajoutes encore quoi? Tu as dit c'est beau, c'est tout. Ce que tu ajoutes là, ça, ce que tu ajoutes là, c'est inutile. Amen. Ma fille Claire, c'est beau. C'est une très belle preuve d'amour. Waouh. Une très belle preuve d'amour. Qu'il porte ton sac. Amen. Il y a les chaussures. Il porte aussi tes chaussures. Oui. Il lui donne ses chaussures. Il porte quelles chaussures? L'homme met les talents. Jesus. Jesus. Ah, ça vous choque. C'est le romantisme selon ce qu'on nous raconte. Attends. Amen. Elle dit ceci. Elle dit que quand il y a aussi le fait que l'on porte la chaussure. Bon, j'ai cru que c'était porté à la main. Amen. Ça dit que la femme marche avec ses talons aiguilles. Elle est épuisée. L'homme enlève. Et la femme porte quoi? Sa chaussure. Il a mis les babouchous. Elle porte la chaussure de l'homme. Sa chaussure qui chauffe au 45, elle est chaude au 32. Et lui porte le 32 alors qu'il chauffe le 45. Seigneur, l'amour là, c'est un niveau de folie. Hein? Il faut qu'on vaccine beaucoup d'hommes aussi dehors. Alléluia. C'est la folie, n'est-ce pas? Ma fille dit que c'est le romantisme. Amen. Tu vas casser le pied du type là. Son tibia va exploser. Alléluia. Vous voyez, les notions changent. Vous voyez, attendez, je vous dis quelque chose. Je vais terminer avec ça. Vous voyez, dans notre culture, un homme qui aime une femme va vers ses parents et se présente à ses parents et l'honore auprès de ses parents. Alléluia. Ok, attendez. Dans la culture européenne et tout ça, un homme, pour montrer son amour à une femme, se met à genoux et lui présente une pierre précieuse qui est une alliance. Et elle met dans son doigt et elle rentre et les gens acclament. Elle rentre, elle présente à ses parents, je suis engagée, je suis fiancée. Amen. Et le parent l'invite, il mange le repas et on organise le mariage. Mais dans notre culture, un homme t'honorera le jour où il viendra auprès de tes parents. Amen. Il peut faire tout ça dehors, mais tant qu'il ne vient pas auprès de tes parents, il peut porter tous tes sacs, toutes tes chaussures. Tant qu'il ne vient pas chez tes parents, auprès de ceux qui t'ont mis au monde, tout ça, tout ce romantisme n'aura aucune valeur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà notre romantisme. Qu'un homme le prouve auprès de tes parents en t'honorant. Amen. En fait, Claire, si on porte ton sac, on porte tes chaussures. Et quand on ne vient pas t'honorer auprès de tes parents, tu seras heureuse. Ce serait un romantisme de dehors, non? Mais le vrai romantisme, c'est qui vient auprès de tes parents, qui dit celle-ci, c'est celle que j'ai choisie. Permettez que je l'ai donnée à moi. Et que tes parents disent, OK, la voilà. Voici ce qu'il faut pour l'honorer. Et qu'il donne cela. Et que tu sortes de là la tête haute au milieu de tes soeurs, au milieu de tes cousines, au milieu de tes nièces, au milieu de tes cousins et que tout le monde dit « Waouh, ma soeur, tu as le jackpot. » Est-ce que quelqu'un avec moi? Vous avez vu ce qui s'est passé ici? La belle-mère du frère Marcel a dit « Voici le plus beau fils de tous les beaux fils. » Il a donné même ce qu'on n'a pas demandé. Pour nous, un homme est un homme quand il peut assumer devant ses parents. Dans l'autre culture, un homme est un homme quand il t'a seul, c'est tout. Maintenant, tu parles, papa, je m'en fous, je vais me marier, c'est l'homme que j'ai choisi, je quitte la maison. Ok, on acclame, il ne faut pas la stresser, envoyez-la chez un psychiatre qui va un peu l'aider. Alléluia. Donc, voilà notre culture. Voilà notre culture. Une femme est femme dans notre culture quand elle a été prise auprès de ses parents. Là, tu peux t'asseoir en société et dire « Je suis une femme. » Amen. Et tu peux avoir un droit de parole. Mais si on a fait ça, tu viens, pardon, pas là-bas. Tu ne connais pas le mariage. Excuse-nous. Laisse les gens qui sont passés par la bonne voie parler. Amen. Alors, c'est ça que j'essaie de nous faire comprendre. Que n'importons pas des valeurs qui n'ont rien avec, qui nous fait faire de la dépense pour rien. Ça nous fait faire la dépense, frère. Tout ce que tu fais pour moi, va me doter chez mes parents, on va voir le reste après. Alléluia. Alléluia. On va voir le reste après. La tendance aujourd'hui démontre que moins de jeunes veulent s'engager. Mais plus de jeunes veulent avoir le fruit défendu sans règles. Ils veulent qu'on fasse comme chez les Blancs. La fille quitte chez ses parents, elle vient habiter avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, les hommes vont de relation en relation. Les femmes vont de relation en relation. Avant le temps de nos parents, ce n'était pas le cas. L'homme que tu connaissais, c'était l'homme de ta vie. Amen. La femme que tu allais rencontrer, c'était la femme de ta vie. Personne n'était préparé à avoir plusieurs relations, sauf si c'était la polygamie. Alléluia. Sauf si c'était la polygamie. Que le Seigneur nous aide.